Bienvenue, vivre ensemble.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Me and You, c'est le podcast du vivre ensemble. On y parle des liens que tissent les enfants avec leurs parents, leurs grands-parents, les professionnels de l'enfance et bien plus encore. Comment accompagner les enfants de manière respectueuse et joyeuse? Comment mieux comprendre leur développement et transformer les difficultés qu'on peut rencontrer en opportunités d'apprentissage? Ce podcast a été conçu à deux. Je suis Mélodie Lopez, je suis professeure des écoles, je suis la créatrice de Happy Kids et je suis maman de 5 enfants.
Et moi, je suis Nadège Petrel. Je suis infirmière puéricultrice, professeure de yoga pour enfants et maman de 2 filles. Avec ce podcast, nous avons envie d'éveiller votre curiosité, de vous faire découvrir de nouvelles approches pour vivre avec vos enfants et de vous apporter des informations qui vous seront utiles pour avancer dans votre quotidien. Parce qu'une personne informée est une personne qui a le choix. Alors, si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à nous donner un coup de pouce en mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et en partageant sur les réseaux sociaux. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la 3e saison du podcast Me and You. Aujourd'hui, nous allons parler du trouble du spectre de l'autisme. Comment se traduit ce trouble neurodéveloppemental? Comment le détecter? Quels sont les premiers signes de l'autisme? Comment accompagner au mieux les enfants? Autant de questions que nous allons poser à notre invitée du jour, experte de ce sujet, puisqu'il s'agit de Charlotte Payen, qui est psychomotricienne. Elle accueille en libéral des enfants ayant des troubles moteurs, comportementaux, sensoriels et ou cognitifs, en premier lieu le TDAH. En hospitalier, CAMS, elle accompagne des tout-petits avec des retards développementaux d'origines diverses, prématurité génétique, troubles du spectre de l'autisme. Et elle est aussi autrice de 2 ouvrages parus aux éditions Erol, 50 clés pour aider un enfant autiste et 50 clés pour aider un enfant TDAH. Bonjour Charlotte.
Bonjour Nadège, bonjour Mélodie.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour parler de ce sujet qui nous tient tant à cœur et tu vois qui, même moi en tant qu'infirmière puéricultrice, je sais qu'il me manque des billes, on va dire, pour accompagner les enfants autour de l'autisme. Est-ce que tu voudrais commencer par te présenter un petit peu, nous dire ton parcours, comment est-ce que tu en es arrivée là et puis à écrire ces 2 ouvrages?
Alors, donc moi, tu l'as très bien dit, donc je suis psychomotricienne et en hospitalier, donc dans un CAMS et en libéral. Et mon parcours, il a été un petit peu stoppé à un moment parce qu'en fait, quand j'ai été diplômée en tant que psychomotricienne, j'ai enchaîné sur un master en sciences du langage et j'ai commencé par avoir un premier travail en crèche pour vraiment me remettre en tête le développement sain d'un enfant. Parce qu'il faut savoir que nous, quand on apprend nos professions, on apprend dans la première année le développement sain de l'enfant, puis après on est beaucoup dans les pathologies et on en oublie le développement sain d'un enfant. Et c'est hyper important quand même de pouvoir se référencer à ce développement. Et donc ensuite, après ce master en sciences du langage qui m'a permis d'avoir d'autres billes, parce que avant, quand j'étais encore étudiante, je trouvais que les parents nous posaient beaucoup de questions sur la sphère langagière. Par exemple, là, on va parler aujourd'hui du trouble du spectre autistique. Donc effectivement, en tant que psychomotricienne, je vous en parlerai après, mais je vais m'intéresser au comportement, à la motricité. Mais la sphère langagière est impactée et les parents ont des questions. Et je trouvais ça intéressant qu'en tant que professionnelle, peu importe, même si je ne suis pas orthophoniste, que je puisse donner des amorces de réponses aux parents et ensuite les réorienter justement vers des orthophonistes, mais que je ne laisse pas sans réponse de prime abord. Et ensuite, du coup, après ce master-là, j'ai commencé à travailler donc en libéral, puis en CAMS. Et petit à petit, il y a un sujet qui m'a pris en fait à cœur, c'était vraiment l'accompagnement des enfants, certes, mais l'accompagnement des parents et de tout leur entourage en fait. Et quand on accompagne des enfants, oui, on passe 45 minutes en tant que psychomotricienne avec cet enfant-là, mais ça suffit pas parce que l'enfant après, lui, il est au quotidien à l'école, à la maison, c'est les parents qui l'ont le soir, la nuit, le matin. Et c'est vrai que je me sentais un peu frustrée parce que je prends le temps après chaque séance ou avant chaque séance de parler aux parents. Mais mine de rien, on est quand même limité et je peux pas prendre une heure pour parler avec le parent, 45 minutes avec l'enfant. Et donc, en fait, l'idée d'avoir écrit des livres, on me l'avait conseillé à l'époque. Et donc, j'ai écrit ces livres-là pour rendre aussi les parents davantage acteurs encore. Parce qu'eux, ils sont acteurs parce qu'ils le souhaitent et parce qu'ils font du mieux qu'ils peuvent à la maison au quotidien. Et c'est pour ça que chaque semaine, ils reviennent avec une question, un conseil qu'ils souhaitent, etc. Et parfois, on se sent impuissant parce que j'aimerais... presque aller les accompagner au quotidien pendant une semaine pour que ce soit plus simple pour eux. Et donc, l'idée des livres, c'est voilà, j'ai beaucoup aimé cette collection aussi qui est 50 clés pour aider un enfant. Alors, 50 clés, effectivement, moi je le dis bien dans mon introduction, les 50 clés ne vont pas correspondre à chaque famille. Et l'idée, c'est d'aller piocher un peu les clés qu'on peut prendre à tel moment pour son enfant, et peut-être qu'il y a une clé qui ne correspond pas pour son enfant maintenant, mais qui correspondra plus tard. Et donc, c'est vraiment l'idée d'avoir comme une petite boîte à outils, mais sous forme de livre, qui permet aux parents aussi de se poser un petit peu sur ce support-là. Donc, c'est-à-dire que un parent voilà, qui est épuisé par une crise que vient de faire son enfant au niveau émotionnel, il ne sait pas trop comment réagir, il ne voit pas la psychomotricienne, l'orthophoniste ou un professionnel là aujourd'hui, mais que dans 3 jours, par exemple, peut-être qu'il pourra trouver des premières pistes, des premières billes de solutions dans ce livre-là. Et voilà, donc en fait, on va dire que j'ai écrit ces livres-là et je travaille au quotidien, que ce soit au CAMS, à l'hôpital ou en libéral, en prenant vraiment en compte les parents. Et je trouve que de toute façon, on ne peut pas accompagner un enfant si on ne s'adresse pas aux parents, si on ne conseille pas le parent. Et donc ça, c'est vraiment ce que j'ai le plus à cœur dans mon métier.
Moi, j'aime beaucoup cette approche d'accompagnement global et de considérer l'enfant comme... une personne à part entière et qui évolue aussi dans un système familial et dans un système scolaire et de prendre en considération du coup tous les acteurs du développement de l'enfant et comme tu le dis si bien de pouvoir donner des clés aux parents qui sont là au quotidien avec lui et qui certes sont l'expert de leur enfant et sont les personnes qu'ils connaissent le mieux mais qui peuvent se sentir démunis par rapport à des situations qui les dépassent ou voilà des choses qui sont difficiles à comprendre, à appréhender. Et dans ton livre, du coup, tu l'expliques très bien et tu permets de leur donner des ressources qui sont précieuses, donc à la fois pour les parents, mais tu vois, moi aussi, ça m'a intéressée dans ma profession d'enseignante aussi, pour avoir un autre regard, d'autres outils à utiliser en classe avec ces enfants qui ont un TSA. Et justement, pour qu'on comprenne bien, est-ce qu'on pourrait commencer par définir justement ce que c'est un trouble du spectre autistique ?
Oui, alors le trouble du spectre autistique, déjà on parle d'un trouble du spectre, c'est vrai qu'il y a quelques années en arrière on parlait beaucoup plus d'autisme, aujourd'hui on parle de spectre parce que les caractéristiques varient beaucoup d'un enfant à l'autre, c'est-à-dire qu'on va avoir des caractéristiques communes, des symptômes communs, mais effectivement déjà il y a des degrés différents, il y a des autismes avec déficience intellectuelle, des autismes sans cette déficience intellectuelle, bon, il y a différents types d'autisme qui fait que les symptômes, les caractéristiques vont varier, c'est pour ça qu'on parle d'un spectre. Ça, c'est vraiment la définition du spectre, qui n'est pas toujours simple à comprendre, je pense, de manière dans la société, quoi, de manière générale. Et ensuite, c'est un trouble du neurodéveloppement, comme le trouble de l'attention, avec ou sans hyperactivité, comme le déficit intellectuel. Donc, c'est vraiment, on ne parle pas de maladie, c'est vraiment un trouble du neurodéveloppement, voilà, qui est posé, en fait, en termes de diagnostic, quand il y a deux symptômes, voilà, sachant que les symptômes après se caractérisent eux par différents petits signes sous-jacents. Donc il y a bien sûr le déficit des interactions et de la communication. Tout à l'heure, on reviendra un petit peu justement sur pourquoi en France on essaye d'accéder à un diagnostic précoce et du coup comment on peut se rendre compte de ce déficit de communication-là, qu'est-ce que ça veut dire. Mais en tout cas, ça va être le premier gros symptôme. Et le deuxième gros symptôme qu'on va retrouver dans l'autisme, c'est les intérêts restreints. Des enfants qui vont toujours vouloir jouer avec, par exemple, des animaux. Ou j'avais un de mes patients qui était passionné par les trains et qui pouvait rester 3 heures devant les trains. Et c'est très compliqué, en fait, de le faire accepter de changer d'activité. Voilà, parce qu'il y a des enfants qui vont adorer jouer avec les dinosaures, sort et parce qu'ils adorent ça, mais si on leur demande qu'on les aide et qu'on verbalise et qu'on leur demande de changer un petit peu d'activité ou qu'on leur dit voilà les dinosaures tu reprendras un petit peu plus tard, là viens on va faire un jeu avec ton frère ou ta sœur, ils vont accepter. Alors qu'un enfant autiste, c'est vrai que pour lui ça va être vraiment difficile de se sortir de ce centre d'intérêt.
Merci déjà de repositionner un petit peu tout ça, parce que je pense qu'effectivement c'est encore quelque chose qui est pas très connu, donc si je comprends bien, ça évolue aussi, puisque maintenant on parle de spectre de l'autisme, mais c'est vrai que je pense qu'il y a encore peut-être des personnes qui ont une certaine image de l'autisme et qui ne voient pas ou qui n'avaient pas forcément connaissance qu'il existe plusieurs formes d'autisme. Donc je pense que c'est intéressant de pouvoir parler tous de la même chose et de commencer par ça. Est-ce que tu pourrais nous dire s'il y a un âge minimum pour déceler en fait l'autisme chez un enfant, et est-ce qu'il y a un test à faire passer, est-ce qu'il y a quelque chose qui permet de vérifier ça, parce que tout à l'heure tu parlais de deux caractéristiques, comment est-ce que ça se passe?
Alors, effectivement, il y a un âge idéal, donc par la Haute Autorité de Santé, il est défini l'âge idéal de 18 mois pour le diagnostic de l'autisme. Ça serait l'âge idéal dans le sens que ça permettrait d'avoir un diagnostic très précoce, très jeune, et donc d'avoir des prises en charge, des accompagnements derrière, aussi à un âge le plus jeune possible, un accompagnement dès la maternelle et puis dans les classes supérieures, aussi par rapport au niveau scolaire. Et donc ça, c'est l'âge idéal. Mais c'est vrai qu'en France, on n'y est pas encore. On est plutôt dans une moyenne entre 3 et 5 ans pour le diagnostic, ce qui est déjà pas mal hein, par rapport à des années en arrière. On reste quand même dans de la précocité. Mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on tente à diagnostiquer l'autisme encore plus précocement et plutôt se rapprocher entre 18 mois et 3 ans plutôt que d'être entre 3 et 5 ans. Voilà.
Et qu'est-ce qui fait que justement, nous, on est plus entre 3 et 5 plutôt que vers 18?
Et bien ça, il faudrait, ça serait intéressant de faire des études et peut-être qu'il y aurait d'autres professionnels qui auraient d'autres réponses que la mienne. Mais en tout cas, moi, à mon sens, par rapport à l'expérience que j'en ai et aux échanges avec mes collègues, c'est qu'en fait, il y a des diagnostics qui sont très complexes. Il y a des diagnostics qui vont être simples parce que l'enfant va présenter les deux symptômes dont je parlais tout à l'heure, avec un retard vraiment du langage, pas de pointage dès le début, un problème au niveau des interactions et des intérêts restreints. Et donc là, ça va être un diagnostic qui va être assez simple, assez limpide. On va, tout à l'heure, je vous parlerai du diagnostic, mais du coup, c'est vrai que cet enfant va être vu par un pédiatre, le pédiatre va s'alerter, il va être vu du coup par différents professionnels paramédicaux, et suite à cette pluridisciplinarité, parce que de toute façon, le diagnostic de l'autisme repose sur ça, sur la pluridisciplinarité, les bilans de plusieurs professionnels qui sont après relus et étudiés aussi par un pédiatre qui va faire passer un questionnaire. Donc, bon, j'en parle du coup de suite. Tout à l'heure, vous me demandiez le questionnaire principal pour l'autisme, ça s'appelle le MCHAT. Et c'est un questionnaire parental qui nous permet vraiment de poser le diagnostic hein, d'autisme au regard du bilan psychomote, du bilan orthophonique, du bilan éducatif s'il y a, etc. Voilà. Et donc, voilà, il y a des diagnostics qui vont être très limpides où finalement tout va découler un petit peu sans doute, parce que, avec certitude, parce que les symptômes seront là. Et il y a des diagnostics qui vont être beaucoup plus complexes, donc avec des enfants qui peuvent avoir un retard de langage, mais parce qu'il va y avoir une déficience intellectuelle ou un problème de la motricité au niveau buccal, au niveau, oui, buccal, de la zone orale. Il peut y avoir un enfant qui a un intérêt restreint, mais parce qu'il va aussi fuir un petit peu. Vous voyez, il y a des enfants, ils ont un mutisme social, et donc du coup, ça peut être aussi lié plutôt au psychologique. Donc, bon, c'est compliqué de s'avancer aussi trop rapidement sur de l'autisme parce qu'il ne faudrait pas mettre l'enfant justement sous cette étiquette trop rapidement au risque de faire une erreur. Et je pense que c'est peut-être ça qui bloque un petit peu ce diagnostic précoce. Voilà, je dirais que quand c'est limpide, quand les signes ils sont là, bon, ben, on va avoir un diagnostic très précoce. Mais pour des diagnostics un peu plus complexes, ça met un peu plus de temps. Après, si on peut s'approcher autour des 3 ans, et ça quand même, moi je parle pour mon boulot au CAMS, on y arrive de plus en plus, on a beaucoup d'enfants de 3 ans qui sont d'ores et déjà diagnostiqués, et déjà 3 ans c'est pas mal, parce qu'après la Haute Autorité de Santé, elle dit aussi que l'âge idéal c'est 18 mois, mais qu'en dessous de 4 ans, on est quand même dans une précocité. Voilà, donc c'est quand même pas mal.
Et moi, je me souviens d'un élève, alors je crois qu'il était en petite section, et je me souviens que les professionnels qui l'accompagnaient avaient eu beaucoup de mal à poser un diagnostic, et que les parents, ils avaient été un peu trimballés entre TDAH, TSA, HPI, syndrome de Gilles de la Tourette. En gros, il y avait un peu toutes les neuroatypies qui étaient portées sur l'enfant, et ça avait été très long. Est-ce que, justement, c'est compliqué tout ça quand il y a une neuroatypie? Est-ce qu'il peut y en avoir plusieurs, etc.? Est-ce que ça peut expliquer aussi... certains retards de diagnostic?
Il peut y en avoir plusieurs. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit bien que c'est un trouble du neurodéveloppement. Les troubles du neurodéveloppement, on peut avoir plusieurs troubles associés. Et moi, au CAMS, j'ai même suivi une petite fille qui avait une trisomie 21 et qui avait un trouble du spectre autistique. Parce que vu que c'est un trouble du neurodéveloppement, l'un n'empêche pas l'autre, c'est des comorbidités après. Et voilà, le trouble du neurodéveloppement peut s'ajouter à une maladie sous-jacente ou à d'autres troubles du neurodéveloppement. Et c'est ce qui rend parfois ce diagnostic complexe pour certains enfants. Et là, je suis un enfant en ce moment un petit peu dans ce cas-là où... on patauge un petit peu, on ne sait pas trop. Il y a beaucoup de personnes qui pensent à de l'autisme, mais en même temps, on ne voudrait pas le poser trop vite parce qu'en plus... Et c'est là où l'intérêt de la pluridisciplinarité, elle est hyper importante. Et c'est vraiment chouette justement d'avoir un médecin qui coordonne et qui après prend les bilans aussi de la psychomote, de l'orthophoniste, etc. Parce que par exemple, en ce moment, je suis une petite fille qui va très peu parler à l'école, qui si elle va voir un médecin sur une heure, en fait, elle ne connaît pas le médecin, donc elle ne va pas lui adresser la parole. Et c'est vrai que moi, la première fois que je l'ai rencontrée, il y a vraiment des signes de type autistique qui m'ont alertée. Et en fait, là, maintenant que ça fait un an que je la suis, elle commence à me connaître, elle commence à être vachement à l'aise avec moi, à avoir confiance. Et donc, son comportement a changé du tout au tout. Mais il n'a pas changé à l'école ou avec d'autres personnes qu'elle ne connaît pas. Et c'est là où il faut peser le pour et le contre. Et après... C'est là où l'intérêt de la question sur le test aussi qui permet de diagnostiquer l'autisme, c'est-à-dire que le MCHAT, qui est un questionnaire parental que fait passer le pédiatre ou le pédopsychiatre, c'est vraiment important qu'il soit passé ce test-là. Et c'est bien qu'aujourd'hui, on ait des tests officiels quand même, parce qu'au regard des observations, des bilans paramédicaux, on va pouvoir quand même à un moment s'arrêter et poser le diagnostic, parce qu'il y a un moment où il faut qu'on le pose, ce diagnostic, pour pouvoir aider l'enfant, pour que les parents puissent avancer. Mais c'est vrai que, oui, il y a des enfants, c'est très complexe, et c'est dur pour tout le monde, parce que c'est dur pour eux, pour la famille, pour les enseignants. C'est des diagnostics qui restent complexes, quand même.
Et du coup, tu vois, pour avoir enseigné en maternelle, justement, ça fait vraiment partie de la tranche d'âge que tu décrivais, 3-5 ans, où là, on observe plein de choses. Puis comme on a 26-27 élèves dans la classe, aussi, il y a les différences de comportement, entre guillemets, elles sautent peut-être plus aux yeux de certains enseignants. Et donc, généralement, on va engager des démarches avec les parents qui vont commencer un suivi. Et alors, souvent, on rentre dans les démarches de dossier MDPH et ça peut être assez long, mais ça permet ensuite un accompagnement plus spécifique des enfants, d'avoir une AESH, par exemple, en classe qui va pouvoir les accompagner et les aider. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, justement, sur l'accompagnement spécifique dont peuvent bénéficier les enfants qui ont un TSA?
Alors, à l'école, donc effectivement, l'enfant qui a été diagnostiqué TSA, il peut bénéficier donc d'un dossier à la MDPH et donc d'aide humaine. Et ça, c'est essentiel. Moi, je n'ai jamais vu, en tout cas, un enfant dans mes patients qui avait un TSA qui a pu aller à l'école sans AESH. C'est essentiel pour que l'AESH, donc c'est une aide humaine qui vient travailler en plus que l'institutrice et qui reste en général. Alors, il y a deux types d'AESH. Il y a l'AESH qui peut rester avec l'élève à temps plein. Donc, elle va être vraiment là que pour tel élève. Et il y a l'AESH mutualisée où là, l'AESH vient, mais elle va partager son temps entre plusieurs élèves. Voilà. Bon, ça, après, voilà, ça dépend un petit peu des possibilités qu'a chaque école aussi et du nombre d'AESH qui sont disponibles, parce que ça, on sait qu'il y a beaucoup de difficultés quand même pour les parents. C'est un vrai combat qui commence aussi. Il y a plusieurs combats dans l'accompagnement de son enfant qui est autiste, parce que ça, c'est un combat vraiment à part entière. Le dossier MDPH, pouvoir avoir de l'aide à l'école pour son enfant. Et donc, cette aide, elle est primordial parce que l'enfant qui est atteint d'un trouble autistique, il va souvent papillonner, j'en parlerai tout à l'heure, mais il a beaucoup de particularités sensorielles et donc c'est des enfants qui peuvent se mettre les mains sur les oreilles pour se cacher de bruits qui sont trop intenses pour eux à l'école. S'il y a des affiches partout sur les murs, ça peut très vite les désorienter et donc du coup ils vont regarder partout ou alors nulle part, ils vont pas du tout savoir en fait traiter les informations visuelles qu'ils ont devant eux. Même au niveau interne, hein, parce qu'au niveau de notre corps, on a des informations. Si vous fermez les yeux et que vous tendez le pouce devant vous, même sans le voir, vous allez pouvoir me dire que votre pouce est tendu parce que votre corps vous envoie l'information de votre posture. Et ça, c'est ce qu'on appelle la proprioception. Et les enfants qui sont atteints d'autisme, souvent, ils en manquent. Donc, au début, ils ont besoin de bouger, de se stimuler. Et donc, ça, c'est pareil. L'AESH, elle va aussi avoir un rôle pour pouvoir apaiser aussi l'enfant un petit peu au niveau corporel. S'il y a besoin, elle va pouvoir l'isoler un petit peu de la classe quand il va être surstimulé par trop d'informations, justement, cet enfant. Elle va pouvoir l'aider tout simplement en guidant aussi hein, sa main selon ses difficultés, s'il a des difficultés au niveau du graphisme, de la motricité fine. Après, voilà, selon chaque enfant, l'AESH va pouvoir aider l'enfant selon ses difficultés. Et donc, comment on va un peu cerner les difficultés de l'enfant? C'est grâce à des équipes éducatives que l'on fait. Nous, les professionnels, on essaye de se rendre disponibles et de pouvoir être avec les enseignants et les parents sur un temps de réunion, justement, où on parle des difficultés aussi, parce que moi, j'aime bien le dire, de leur facilité et de leur potentiel, parce que souvent, on parle de difficultés, mais il faut justement qu'on parte de leur potentiel. Quand je suis avec un enfant autiste que je rencontre pour la première fois, et même souvent, ça dure pendant les premières années de prise en charge, parfois, très souvent, en fait, ils ne veulent pas faire ce que je leur propose moi. Donc, je vais partir de leur proposition pour arriver à ce que moi, j'ai en tête pour eux, en fait. Et ça, c'est important. Donc, du coup, pour faire ça, il faut avoir en tête ce qu'ils aiment et ce dont ils sont capables. Et ils ont un potentiel, ces enfants-là. Et ça, j'aime bien le rappeler, c'est ma petite touche. C'est pour ça que j'ai écrit les livres aussi, c'est que c'est important. Je trouve que parfois, les parents, les instituteurs, les professionnels médicaux, paramédicaux, sans le vouloir, parfois, on leur renvoie beaucoup une image négative, en fait, avec que les difficultés. Et c'est quand même important de partir des facilités de l'enfant. Donc, à l'école, voilà, il y a cette aide. Et puis après, grâce à la MDPH, les parents peuvent aussi avoir une aide financière pour financer justement tous les soins comme la psychomote qui ne sont pas encore remboursés par la Sécurité sociale.
Et c'est important ce que tu disais quand tu parlais de du fait de partir du potentiel de ces enfants, parce que c'est vrai que, tu vois, pour avoir des personnes dans mon entourage pour qui il y a encore des diagnostics un petit peu flous pour leurs enfants, je sens quand je discute avec eux que c'est quelque chose qui est très stressant parce que c'est beaucoup l'inconnu, parce qu'ils sont un petit peu perdus, parce que ben, on t'annonce que ton enfant il a une spécificité et même si des fois tu t'en doutes, il y a une différence entre percevoir un petit peu que ton enfant à des particularités et puis avoir un vrai diagnostic de poser, même si des fois ça peut être aussi quelque part un soulagement d'avoir un diagnostic parce que là on va pouvoir enclencher toute une démarche d'aide, de soutien, etc. Mais c'est vrai que des fois certains parents peuvent être un petit peu déstabilisés par tout ça et rappeler que ces enfants-là ils ont du potentiel, ça me semble tellement évident et important. Donc vraiment merci Charlotte d'en parler parce que c'est il faut le souligner vraiment. Et du coup donc là tu parlais aussi de ton métier, effectivement de cette vision que tu as, et tu commençais un petit peu là, à amorcer la prise en soin des enfants que tu accompagnes. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus justement sur ton rôle dans l'accompagnement des enfants autistes que tu vois?
Alors moi, quand j'accueille un enfant autiste, c'est vrai que, comme on le disait tout à l'heure pour le diagnostic, c'est vrai que le diagnostic tend à être précoce. Et moi, je vois bien que plus je reçois les enfants tôt, plus leur évolution est meilleure, et notamment au niveau scolaire pour leurs apprentissages. Je m'explique en deux petites minutes, c'est qu'en fait, quand je les reçois là cette année, j'en ai reçu pas mal quand même entre 3 et 4 ans, ce qui était très chouette parce que du coup, au début, souvent, je reçois des enfants qui sont très instables au niveau en fait de leur corps. Ils papillonnent, donc ils vont d'un endroit à l'autre dans la salle, ils peuvent toucher un objet, le lâcher, en prendre un autre et puis un troisième et puis hop, c'est infernal et c'est la sphère qui continue comme ça, de prendre des objets les uns après les autres, mais sans se poser finalement sur un jeu, sur un objet. Et puis par contre, quand ils trouvent un objet qui les intéresse, par exemple, j'ai un petit garçon qui a trouvé ma petite toupie d'équilibre, alors ça l'a intéressé parce que ça tournait, donc du coup, là, il pouvait se poser parce qu'on est sur une forme d'intérêt restreint, et donc là, il s'enferme un petit peu dans sa bulle avec son objet. Et donc moi, ma première mission avec les enfants autistes, c'est de pouvoir les aider à se poser corporellement, de pouvoir s'ancrer corporellement, prendre conscience de leur corps, et puis arriver à avoir une attention conjointe avec moi. Donc l'attention conjointe, c'est pouvoir regarder en même temps le même jeu que moi et pouvoir partager un petit peu ce jeu avec moi. Déjà, on est vraiment sur ça, on va dire, sur voilà, c'est mon premier gros socle de travail, parce que une fois que les enfants autistes pourront mieux se poser corporellement, ils pourront plus partager des choses avec nous. Et donc là, on va pouvoir travailler sur d'autres fonctions, comme la motricité fine, le graphisme, tout ce qui est visio-spatial aussi. Donc le visio-spatial, c'est aider l'enfant à repérer différentes informations visuelles devant eux, mettre en lien ces informations-là, les traiter, les analyser. Voilà, donc après, tous les items psychomotes, la latéralité, les coordinations, en fonction de chaque problématique, ça, les problématiques, hein, comme je le disais, peuvent varier d'un enfant à l'autre. Donc là, après, je vais axer mon travail un petit peu différemment selon chaque enfant. Mais en tout cas, ce que je repère vraiment qui est commun à tous les enfants que je reçois et qui ont un trouble du spectre autistique, c'est ce travail corporel et sensoriel au début. Voilà, la thérapie sensorielle, je m'oublie, et pourtant c'est un de mes billes principales en psychomote. Moi, j'ai été formée à ce qu'on appelle l'intégration neurosensorielle, et ça me paraît primordial pour les enfants qui ont un spectre autistique, mais aussi pour d'autres enfants. Et donc ça, c'est un outil qui est précieux, parce que ça va nous permettre de comprendre justement et d'officialiser aussi, quand on parle du coup aux instituteurs, etc., bah, pourquoi l'enfant, tiens, il met ses mains sur les oreilles. Et ben, on va pouvoir expliquer, ben voilà, on a fait passer, donc là, c'est un test qu'on fait passer, un questionnaire aux parents qui s'appelle le profil sensoriel de Dune, et ça nous permettra de comprendre que là, l'enfant, bah, en fait, il a une hypersensibilité auditive, donc ça veut dire qu'il va percevoir beaucoup plus intensément, jusqu'à presque l'irriter, en fait, certains sons que nous, on n'entendrait même pas, comme par exemple un bruit d'une clim, nous, on pourrait travailler avec toute la journée. Bah, peut-être qu'un enfant, certains enfants, en tout cas autistes, et beaucoup en réalité, pour eux, ça va les déranger énormément. Et donc, si on éteint juste cette clim, par exemple, ça va peut-être déjà l'apaiser un petit peu. Donc ça, c'est pour ça que je dis que c'est un de mes outils auxquels je tiens le plus, parce que c'est ce qui va nous permettre aussi après de donner des conseils à l'école pour faire des aménagements spatiaux, parce que dans notre rôle, on parlait de mon rôle de psychomotricienne, donc je l'ai dit, c'est apporter un apport et un travail vraiment corporel à l'enfant pour après pouvoir petit à petit, selon son évolution, travailler les différentes difficultés en termes de motricité fine, latéralité, coordination, visio-spatiale. Et notre troisième grande mission, je dirais, c'est aussi de faire du lien avec les écoles pour pouvoir justement aménager la classe, aménager le fonctionnement qu'on va utiliser avec tel enfant, et aussi la communication, même si ça, c'est le plan orthophonique en termes de, parce que après les orthophonistes utilisent beaucoup de pictogrammes pour parler avec des enfants autistes, etc. Moi, quand je parle de communication en termes de psychomote, ça va être plutôt, par exemple, communiquer à l'enfant finalement les règles de vie de base, le rapport au temps, c'est-à-dire mettre un petit planning visuel par exemple avec différents pictogrammes. On n'est pas dans de la communication au sens propre, mais par contre on va communiquer à l'enfant des repères visuels pour que lui il puisse mieux se repérer dans le temps, dans l'espace. Donc ça, c'est aussi une de nos missions qu'il faut qu'on remplisse, hein, d'échanger avec les parents, mais surtout avec les enseignants, pour les aider à ce niveau-là.
Et justement, tu parles des enseignants et de comment les aider. Donc si on revient au milieu scolaire, alors on parle beaucoup d'écoles inclusives, mais concrètement, on voit que c'est quand même pas toujours évident, à la fois pour les enfants, à la fois pour les enseignants, les AESH, de faire en sorte que le bien-être de ces enfants, il soit vraiment respecté. Quels seraient les aménagements qu'on pourrait mettre en place, qui pourraient bénéficier aux enfants autistes, mais je suis sûre qu'il pourrait bénéficier aussi à tous les enfants, quoi, qu'ils soient neurotypiques, neuroatypiques. Qu'est-ce que tu pourrais nous partager, qu'on pourrait diffuser en masse pour le bien-être de tous les enfants ?
Alors déjà, je te rejoins. Les aménagements qu'on va utiliser avec un enfant qui a un trouble du spectre autistique, il faut vraiment avoir en tête que ça peut servir à d'autres enfants. Et ça, je le dis aux enseignants parce que je sais que certains, et je les comprends parce que quand on a 30 enfants dans une classe, on n'a pas forcément le temps de trouver, déjà le temps de mettre en place l'aménagement, puis après de l'utiliser. Enfin, je sais que c'est pas évident, mais il faut le faire parce que ça va aider l'enfant, mais ça va aider aussi l'instituteur finalement, parce que ça va apaiser l'enfant et donc l'instituteur sera moins en difficulté. Et ça peut aider différents types d'enfants et même des enfants qui ont un développement qui ont un développement neurotypique, qui sont sains. Donc, en petits tips comme ça, parce qu'il y en a une multitude, et puis après, c'est aussi au cas par cas. Donc, c'est toujours dur en podcast ou justement dans un livre. Hein, tout à l'heure, je parlais des 50 clés. Effectivement, 50 clés, j'ai des gens qui, dans mon entourage, professionnels paramédicaux ou non, qui m'ont dit « Oui, mais donner 50 clés aux parents d'enfants autistes, c'est compliqué parce qu'ils ne pourront pas tous les utiliser. » Non, en effet. Mais l'idée, c'est juste de donner des tips. Et puis après, chacun se saisit au moment donné de ce qu'il peut prendre. Et je trouve que c'est déjà mieux que rien que plutôt de se dire « Bah là, voilà, on ne donne pas de tips. » Et à la maison, les parents sont confrontés à être seuls. Les instituteurs à l'école, ils sont seuls. Et voilà, donc c'est toujours bien de donner quelques tips. Donc, je vais quand même vous en donner. Déjà, je dirais que le premier conseil que je vois passer dans les écoles et qui pourrait être super chouette, c'est de vraiment instaurer dès le début de l'année, de le préparer quand on reprend... je sais que les instituteurs reprennent une semaine avant ou deux semaines avant les enfants. Et donc, de préparer pendant ce temps-là où on a un peu plus de temps, une petite cabane. Une petite cabane. Si on ne peut pas mettre une cabane, pas de panique, on peut mettre un gros coussin, un gros tapis. Mais en tout cas, il faudrait un petit endroit délimité qui pourrait être un peu la ressource pour un enfant qui va être surstimulé en fait, par le bruit, par le visuel, par plein de choses. Et donc voilà, ça peut être une petite cabane, ça peut être un petit coussin, ça peut être des petits tapis, ça peut prendre plusieurs formes en fait, un petit tipi. Vraiment, ça, il faut se sentir libre sur la façon dont on met l'aménagement en place. Donc ça, déjà, je trouve que de dire ça aux enseignants, ça apporte aussi un peu une soupape de respiration parce qu'on ne leur dit pas il faut faire ça, 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 mais au moins de créer un petit endroit zen, une petite bulle où l'enfant, il peut fuir un petit peu les surstimulations. Pour les enfants, là, je parle, qui ont un TSA. Et après, si vraiment ça, ce n'est pas possible, peut-être que c'est possible dans un autre coin de l'école. Si ce n'est pas possible dans la salle de classe, peut-être qu'il est possible dans une autre salle, par exemple... dans le gymnase, ou s'il y a une salle de réserve de matériel qui ne sert pas à grand chose, peut-être que là on pourrait créer un petit cocon pour ces enfants-là. Donc il faut vraiment se dire, il ne faut pas rester fermé en se disant il faut que je crée ça dans la salle, je ne peux pas donc je ne le fais pas, mais peut-être aller réfléchir un peu plus, je dirais largement dans l'école, ok là je ne peux pas le faire dans la classe, donc où est-ce que je pourrais apporter ce petit cocon à l'enfant, et il y a peut-être plusieurs possibilités en fait finalement dans une école. Donc ça, c'est un grand conseil quand même parce que je trouve que c'est essentiel pour que l'enfant puisse se ressourcer. Et après, quand l'enfant il est en classe, de donner des repères visuels. Par exemple, un enfant qui a un trouble du spectre autistique, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'ils ont du mal au début à gérer les changements. Hein, ce que nous on appelle la flexibilité mentale, et donc c'est ce que je vais travailler d'ailleurs aussi en psychomote. Et donc ça, j'encourage par exemple les enseignants, notamment en maternelle, où parfois on prend les mêmes tables pour faire le goûter, pour faire les dessins, etc. Pour un enfant qui a un trouble du spectre autistique, ça peut être difficile. Et ça, pour nous, ça ne nous paraît pas difficile, donc c'est pas quelque chose auquel on va penser en premier. Mais si vous voyez que l'enfant, il a pris le goûter sur une table et du coup après il veut pas refaire par exemple la peinture, c'est peut-être qu'il n'accepte pas aussi ce changement finalement dans ce même lieu. Et donc ça peut être intéressant d'utiliser des sous-mains, vous savez, des sous-mains ou des dessous assiettes par exemple. Et donc on met le rouge quand c'est le goûter, on met le bleu quand on fait une activité avec de la pâte à modeler ou de la peinture. Enfin voilà, donner des petits repères visuels. Tout à l'heure, j'ai parlé très rapidement du repère aussi visuel pour le planning. Ça, c'est important quand même quand on accueille un enfant qui a un trouble du spectre autistique. Et donc, Ça peut être l'AESH, hein, justement, qui, quand l'enfant il arrive le matin, elle lui montre le premier pictogramme. Donc, le pictogramme, pareil, pas de panique, c'est un gros mot qu'on utilise beaucoup, nous, dans les paramédicaux. Mais en fait, vous pouvez tout simplement, en tant qu'enseignant, prendre des photos des jeux que vous avez, des photos des endroits. Si vous allez au gymnase, ben, on prend une photo du gymnase. Comme ça, quand, avant d'aller au gymnase, l'AESH, elle peut montrer... elle ou il d'ailleurs, peut montrer à l'enfant que bah, là, et voilà, il y a la photo du gymnase parce qu'on va aller au gymnase. Et ça, moi, vraiment, j'utilise beaucoup en séance et ça les aide énormément à rentrer dans les activités au début. Donc voilà, plusieurs petits tips comme ça. Dans mon livre, j'ai mis une page pour les enseignants, justement. Donc ça, c'est pour ça que j'avais bien dit, c'est un livre pour les parents, mais pour les enseignants aussi. Et j'encourage les AESH aussi à le prendre parce que dedans, il y a des petits tips d'activités, mais qu'elles pourront utiliser avec l'enfant pour le détendre, pour l'aider dans ses apprentissages. Mais aussi, du coup, des petits tips, justement, comme là, je viens de dire à l'oral, je sais que l'idée du sous-main avec les différentes couleurs pour bien distinguer les différents temps et les différentes activités, je l'ai mis dans mon livre, par exemple. Et c'est vrai que, voilà, il y a plein d'idées que j'ai mis pour les enseignants aussi. Parce que ben ils passent quand même beaucoup de temps à l'école, même si alors ça je l'ai pas dit tout à l'heure, j'aurais peut-être dû en parler. On parlait du diagnostic, après on a parlé des aides avec la MDPH, etc. Il faut savoir qu'un enfant qui a été diagnostiqué d'autisme, il va pas aller à temps plein tout de suite à l'école. Il va y aller parfois que le matin, parfois quelques heures. Il faut faire ça en progressif. Et si on se rend compte que c'est trop compliqué, d'ailleurs, il peut être important, au-delà des tips que je donne, d'appeler les professionnels. Ça, il ne faut pas hésiter à nous appeler. Nous, on essaye vraiment justement de se mettre en lien avec les enseignants et on adore quand les enseignants nous appellent parce que ça veut dire qu'on peut vraiment apporter des conseils. Et encore une fois, voilà, on n'est pas là pour dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire dans les classes, mais vraiment pour soutenir en fait l'enfant et du coup l'enseignant finalement.
Et ce que je trouve intéressant dans tout ce que tu nous partages là, dans toutes ces petites astuces à mettre en place, c'est que, moi, dans ce que j'entends, ça ne demande rien d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus une connaissance, au final, j'ai l'impression, des particularités d'un enfant autiste pour pouvoir adapter des toutes petites choses dans le quotidien, mais qui, pour cet enfant, auront une grande importance. Et quand je t'écoute parler, je me dis... ça va, ça a l'air assez facile comme petite chose à mettre en place. Après, je dis pas que à vivre, etc., ce soit simple, mais là, dans tout ce que tu nous partages là, je me dis ça reste vraiment accessible parce que même moi, tu vois, qui suis pas là-dedans, enfin, qui n'ai pas vraiment de connaissances, je me dis, bon, bah voilà, les sous-mains, le petit coin zen, etc. Et puis, comme le disait Mélodie tout à l'heure, c'est que au final, ça peut être même des petites choses qu'on peut mettre en place, j'ai envie de dire, pour tous les enfants, parce que ça ferait du bien. Moi, je travaille beaucoup avec des parents qui ont des enfants qui ont une haute sensibilité. Et pour le coup, tu vois, le coin zen, pour pouvoir diminuer un peu toutes les surstimulations, etc., le bruit, machin. Enfin, je me dis, tout ça, c'est aussi des fois des recommandations que moi-même, je peux donner pour ces enfants-là. Alors, certes, on reste dans les neuroatypies, mais au final, on se rend compte vraiment que ben voilà, ce qui peut aider un enfant peut être aussi bénéfique, peut-être à un autre niveau, mais pour d'autres enfants. Donc, c'est vraiment intéressant. Et merci de nous partager tout ça, parce qu'encore une fois, je trouve que ça a l'air, en tout cas, assez simple. Voilà, à mettre
totalement
en place.
Et après, vraiment, il ne faut pas que les enseignants, les AESH, hésitent à appeler les professionnels, parce que j'avais une connaissance qui est enseignante et qui me disait, mais... c'était quand on l'écoute, c'était un enfer et je la comprends parce qu'elle recevait un enfant qui avait un trouble du spectre autistique et criait toute la journée. Et du coup, elle n'arrivait pas à faire court parce que cet enfant criait toute la journée. Donc, elle me disait qu'elle essayait parfois avec l'AESH de le sortir un peu de la classe, mais après, il revenait et il criait. Et je lui ai demandé en parlant comme ça sur un temps informel, mais est-ce que vous avez déjà essayé de lui mettre par exemple un casque anti-bruit? Parce que peut-être, parfois, il y a des enfants, ils crient. Donc, ils essaient de se stimuler au niveau du bruit, au niveau de l'audition, parce qu'eux-mêmes sont irrités par trop de bruit. Et donc ça, c'est des choses justement que les professionnels, grâce notamment au profil sensoriel dont je parlais tout à l'heure, quand je fais le bilan psychomote, qui ressortent en fait du bilan psychomote. Et donc, j'avais dit à cette connaissance, mais essaye d'appeler la psychomote de cet enfant-là, parce qu'il y a peut-être des choses à faire en fait. Il faudrait comprendre, parce que Oui, du coup, un enfant qui crie, moi, je comprends qu'en tant qu'enseignant, c'est pas possible toute la journée. Mais il faudrait se demander, voilà, pourquoi il crie. Et du coup, bah, l'enseignant, il peut pas trouver ça tout seul. Effectivement, parfois, on n'a pas les réponses. Donc, ne pas hésiter à se mettre en lien avec les professionnels. Parce que c'est vrai que, bah, malheureusement, alors moi, j'ai la chance, dans ma région, je travaille quand même beaucoup avec les instituteurs. Mais c'est vrai que je sens, même quand j'en parle aux professionnels paramédicaux, parfois il y a une cassure qui se fait entre les professionnels paramédicaux, médicaux et les enseignants, parce que parfois certains enseignants nous disent « non mais ça j'ai pas le temps, ça je peux pas, ça… » et je les comprends, mais en fait on n'est pas là, et c'est le message que je veux donner aujourd'hui, on n'est pas là pour dire ce qu'il faut faire dans la classe ou pour mettre des choses qui seraient contraignantes, on est là vraiment pour… écouter l'enseignant, on voit ce qui est possible ou pas. Si telle chose n'est pas possible, on peut penser peut-être à une autre solution. Il existe différentes solutions en plus pour un même problème. Donc, il faut vraiment être dans l'échange, parce que je pense que ça aidera et l'enfant. Et comme je disais tout à l'heure, si on aide l'enfant à s'apaiser, bah, l'enseignant, ça va lui enlever un poids sur les épaules aussi. Il va pouvoir mieux interagir avec les autres élèves, interagir avec cet élève-là qui est atteint d'un trouble du spectre autistique et faire ses cours. Et ça sera mieux pour tout le monde, vraiment.
Et comme tu disais, c'est l'entraide aussi d'un professionnel envers un autre professionnel. Et puis, ça reste du travail pluridisciplinaire. Mmh. C'est-à-dire que peut-être que vous pouvez faire aussi des observations qui vont venir aider les enseignants, effectivement, par tout ce que vous allez et ce que vous aurez testé auprès des enfants. Donc, c'est hyper intéressant.
Et du coup... Oui, c'est important. Vas-y. Aussi parce qu'en tant qu'enseignant, on a des temps formels avec les équipes éducatives, avec le RASED, où on peut parler de tout ça. Mais donc, tu dis, on peut sortir de ces temps vraiment définis et appeler la psychomote, l'orthophoniste ou quoi, en soutien en plus de ces moments-là. Donc ça, c'est important. Peut-être que des fois, on n'ose pas trop.
Ben oui, tout à fait. C'est pour ça que je veux le redire ici, parce que vraiment, nous, on essaye de faire du lien et c'est toujours un plaisir quand on a un enseignant qui nous appelle. Et là, on parle que de l'école maternelle, mais il y a aussi la crèche, parce que moi, j'ai des enfants qui... Là, je voyais un petit garçon qui était déjà diagnostiqué à 2 ans et demi, et donc lui, il était en crèche encore, parce que parfois, il rentre à l'école qu'à 4 ans en plus. Et donc moi, je me suis rendue en crèche, en fait, au-delà du temps effectivement formel où on fait des réunions pour discuter de tel enfant et pour trouver les meilleures solutions pour lui. Là, je me rendais vraiment sur un temps de crèche. J'ai donné le goûter avec les auxiliaires de puériculture, on a fait des jeux ensemble et ça m'a permis de voir l'enfant dans son contexte. Et on peut faire la même chose en école maternelle. On peut aller observer en tant que professionnel, moi je l'ai déjà eu fait, d'observer un enfant pendant 1 heure dans sa classe pour essayer de donner des tips encore plus adaptés en ayant vu l'enfant dans la classe, en fait. Donc oui, ça, faut pas hésiter, faut se mettre en lien. Et de toute façon, ça ne coûte rien de se mettre en lien. On voit si le professionnel avec qui on travaille dans notre ville est dispo ou pas. Mais si tout le monde est motivé et disponible pour aider ses enfants, il n'y a pas de raison que ça puisse pas se mettre en place.
Totalement. Et du coup, si on revient un petit peu du côté des familles et donc plus particulièrement des parents, est-ce qu'il y a des difficultés particulières auxquelles justement les parents d'enfants qui ont un trouble neurodéveloppemental sont plus fréquemment confrontés ?
Alors, si on parle du trouble du spectre autistique précisément, il y a souvent des troubles du sommeil et des troubles alimentaires qui peuvent être assimilés à ces troubles-là. Et donc ça, il faut l'avoir en tête, parce que c'est des temps qui sont très difficiles pour les familles, parce que c'est des temps qui sont quotidiens. Et il y a même tout ce qui est douche, bain, la toilette, parce qu'avec les hypersensibilités tactiles, ça peut être très compliqué. Et donc ça, il ne faut pas que les parents, pareil, ils hésitent à en parler aux professionnels, parce que nous, effectivement, on voit l'enfant au sein d'une séance, mais c'est bien aussi de savoir comment il se comporte à la maison pour donner des conseils pour ces temps-là précisément, au niveau de la nourriture, au niveau de la toilette, du sommeil. Donc ça, c'est des difficultés auxquelles peuvent être confrontés les parents. Et après, je sais qu'il y a quelque chose qui remonte souvent, moi, quand les parents me parlent, parce que du coup, ils se confient beaucoup aussi aux professionnels de santé, les parents. Et c'est vrai qu'il y a aussi ce sentiment, alors je reprends leurs mots, de honte parfois quand ils se promènent par exemple avec leur enfant qui a un trouble du spectre autistique et qu'ils vont faire des courses. C'est vrai que par exemple les courses, le magasin, c'est un endroit qui est surstimulant. Déjà pour nous, parfois, mais nous, on est habitués et donc on traite les informations qu'on voit, qu'on entend, qu'on sent très bien. Et puis, on arrive aussi au niveau de la cognition, du raisonnement, on arrive à se dire que c'est un temps à passer et qu'après, voilà, on va sortir du magasin, etc. Les enfants qui ont un trouble du spectre autistique, ils sont très vite irrités par la sensorialité, comme on le disait. En plus, ils ne se repèrent pas trop, donc ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont sortir de ce magasin. Et ça peut devenir des temps qui sont infernales pour les parents. Parce qu'effectivement, il y a des parents qui me disent « Oh, mais hier, il m'a fait honte parce qu'il a crié pendant toute l'heure, on était aux courses. » Et c'est vrai que c'est compliqué pour les parents parce qu'eux, ils acceptent. En général, en tout cas, moi, les patients que je vois, les parents, ils sont très ajustés avec leur enfant. Ils font du mieux qu'ils peuvent, ils acceptent la difficulté de leur enfant. Mais le regard de la société... quand ils se promènent au parc, quand ils se promènent dans les magasins, c'est compliqué. Alors moi, je dis souvent aux parents, et d'ailleurs je l'ai écrit dans mon livre, que eux, ils savent pourquoi leur enfant réagisse comme ça, qu'un jour leur enfant, il pourra réagir autrement, mais pour l'instant, voilà, même si je comprends que c'est pas facile pour eux, ben, leur enfant, pour l'instant, il réagit comme ça. Et si quelqu'un les regarde mal, ou si quelqu'un leur fait une réflexion, etc., et ben, en fonction de la capacité du parent, soit le parent, il leur dit... de manière un peu cash, ben oui, je suis désolée, mais non, même pas je suis désolée. Souvent, je dis ça aux parents, mais même pas je suis désolée, en fait, parce que les parents n'ont pas été désolés pour ça, mais en disant, ben, mon enfant a un trouble du spectre autistique. Et là, en général, il y a une maman qui l'avait fait un jour et elle m'a dit, mais ça, entre gros guillemets, ça a cloué le bec de l'autre personne parce qu'en fait, elle s'est sentie gênée, l'autre personne qui regardait mal. Et c'est vrai que, en tout cas, ça, j'aime bien dire aux parents que, voilà, je comprends cette gêne en société, mais en même temps, le dehors, et j'en ai fait une page dans mon livre, le dehors, c'est primordial pour l'enfant qui est atteint d'autisme, parce que du coup, c'est en découvrant, par exemple, une feuille d'arbre, en venant la toucher, alors au début, il ne voudra peut-être pas, mais peut-être que la deuxième fois, il voudra la toucher, lors d'une deuxième sortie, c'est en découvrant le sable ou l'herbe, en fonction de là où vous habitez, et c'est en sentant même l'air sur la peau qui souffle, et pour un enfant qui a un trouble du spectre autistique, rester tout le temps dedans, finalement, ça l'aide pas à sortir de ses intérêts restreints, etc. aussi. Donc voilà, je dirais que la problématique principale des parents, alors il y en a plein, donc je sais pas si principal c'est le bon mot, mais en tout cas c'est une difficulté que beaucoup de parents rencontrent, comment sortir, comment faire des choses avec son enfant qui a atteint d'un trouble du spectre autistique. Et voilà, à eux de trouver leurs ressources pour répondre aux autres. Alors, il y a des parents qui arrivent à mettre un filtre et ils se disent bah, « les regards des autres, je m'en fiche et j'en tiens pas compte ». Mais pour d'autres parents, c'est très compliqué et je le comprends. Et du coup, je conseille parfois aux parents aussi, eux-mêmes, de pouvoir consulter un psychologue. Alors, peut-être pas toutes les semaines, peut-être pas toutes les deux semaines non plus, mais peut-être moins une fois par mois, parce que c'est pas évident de trouver du temps dans tout ça pour eux. Et c'est vrai que ça peut être bien aussi d'avoir vraiment un temps, une heure entière ou 30 minutes entières pour pouvoir aussi aborder ces sujets-là, parce qu'il est évident que pour un parent, c'est dur au quotidien d'accompagner son enfant qui a un trouble du spectre autistique, c'est beaucoup de fatigue et d'organisation. Et donc c'est important aussi que le parent ne s'oublie pas et que lui aussi puisse être un petit peu accompagné. Voilà. Et si ça passe pas par un psychologue, ça peut passer aussi par un sport, par ce qu'ils aiment faire. Il y a des parents, ils n'ont pas forcément besoin de parler de tout ça, mais juste de prendre une demi-heure pour faire son sport, ou pour cuisiner, ou pour faire ce qu'ils aiment, jardiner s'ils aiment, ou lire. C'est vraiment primordial, en fait, que le parent ne s'oublie pas. Alors, c'est pas évident. Du coup, moi, ce que je fais, souvent, il y a des parents qui viennent me voir, et pendant les 45 minutes de la psychomote, j'ai une maman, par exemple, qui va à la salle de sport juste à côté. Voilà, donc ça peut être aussi... Pareil, il faut y réfléchir, et ça peut être réfléchi avec... un professionnel ou même sur des temps informels avec l'entourage. Peut-être que parfois, nous, on ne trouve pas la solution, mais peut-être que dans notre entourage ou un professionnel peut nous aider à comment trouver ce temps-là, même minime, que l'on peut avoir en tant que parent, quoi. Je pense que tous les parents en ont besoin, mais encore plus, je dirais, quand on a un enfant du trouble du spectre autistique, parce que c'est vraiment beaucoup, beaucoup de fatigue au quotidien.
Et moi, je voulais juste rajouter, puisqu'on parle du vécu du côté des parents. Moi, à la maison, j'ai la BD qui s'appelle « Ça va aller » de Daisy Dessine, qui retrace donc à travers sa BD ben, toute la phase de diagnostic, de tout plein de notions autour du handicap, de l'autisme par rapport à son propre fils, à son propre enfant. Et du coup, voilà, si jamais vous êtes un peu perdu, peut-être en phase de diagnostic, peut-être que cette BD peut aussi être intéressante pour vous. Donc ça s'appelle « Ça va aller ».
Et tout à l'heure, Charlotte, tu parlais du regard des autres. Et là, j'aimerais qu'on parle du regard que peuvent porter peut-être les enfants neurotypiques sur leurs copains autistes. Comment est-ce qu'on peut parler de l'autisme aux enfants, justement, pour qu'ils puissent créer des liens avec ces enfants autistes, sans préjugés, sans a priori? Comment on peut faire pour les accompagner là-dedans?
Alors, il y a plusieurs solutions. Moi, je dis toujours que pour les enfants, comprendre une différence, ça, c'est possible si on leur explique tout simplement avec des mots. On utilise des mots assez simples et on leur dit que tel camarade, pour l'instant, lui, il n'est pas disponible ou pour l'instant, il ne peut pas faire telle activité, mais que plus tard, il pourra la faire. Si l'adulte, en tout cas, vient mettre déjà des mots très simples sur ce qui se passe et vient décrire ce qui se passe, ça veut dire que c'est OK pour l'adulte et donc peut-être que les autres enfants seront un peu plus OK aussi avec ça. Donc ça, je dirais que c'est la base. Et après, comprendre les notions un petit peu abstraites comme le trouble du spectre autistique, le trouble de l'attention. Enfin voilà, si on va vraiment sur une explication d'un trouble spécifique ou même d'une maladie comme la trisomie 21 ou autre, ça, c'est parfois un peu plus dur pour les enfants. Donc ce que j'encourage à faire, moi, c'est de passer par les expériences parce que quand un enfant vit la chose, il va mieux la comprendre. Donc du coup... Pendant ce podcast, on a parlé beaucoup de sensorialité aussi parce que c'est vrai que ça prime beaucoup chez l'enfant qui a un trouble du spectre autistique. Et ça pourrait être intéressant de faire par exemple un temps musical où on va faire un bruit très doucement au début, puis plus intensément, plus jusqu'à ce que ça devienne trop intense finalement pour tous les enfants. Et là, on va pouvoir expliquer à l'enfant, aux enfants, voilà... Pour vous, ça a été un peu trop fort là. Et ben, vous voyez, pour tel enfant, votre camarade, et ben lui, même quand c'est un peu moins fort, c'est déjà trop fort pour lui. De passer par une expérience en rajoutant des mots dessus, je trouve que les enfants, ils vont mieux percevoir les choses. C'est comme quand tout à l'heure, j'ai dit à un petit moment que parfois, quand il y a trop d'affiches au mur, ça peut perdre un enfant avec un trouble du spectre autistique parce qu'au niveau visuel, il va être surstimulé. C'est pareil, on peut peut-être essayer d'inventer un jeu où on va aller un peu au-delà de la stimulation normale chez les enfants neurotypiques. Et donc, par exemple, on peut aller faire défiler des images, par exemple, très vite et demander aux enfants, qu'est-ce que vous avez retenu, qu'est-ce que vous avez vu, ou est-ce que vous avez vu le petit chien? Et en fait, le petit chien, il aura été caché sur une page rouge, la deuxième image qui est passée très vite. Et donc là, on pourra leur expliquer, oui, vous ne l'avez pas vu parce qu'il y a eu beaucoup d'infos devant vous. Et finalement, votre camarade, lui, il y a toujours trop d'infos. Et donc, du coup, il ne peut pas regarder comme vous regardez ce que je vous montre, etc. Voilà, là, j'ai donné deux idées comme ça que je viens d'inventer. Enfin, voilà, j'essaye de...
Ça me fait penser, il y a une vidéo sur YouTube comme ça où on voit des gens qui se font une passe. Et donc, il faut compter le nombre de passes qui se font. Donc, on suit vraiment du regard la balle. Et donc à la fin on demande aux personnes combien d'échanges vous avez compté, donc les personnes vont dire 12, ok, vous avez rien remarqué de bizarre. Et en fait, s'ils regardent la vidéo une deuxième fois, ils se rendent compte qu'il y a un adulte déguisé en gorille qui passe en se tapant sur le torse pendant qu'ils se font la passe. En fait, quand on est vraiment focalisé sur compter les nombres de passes, on voit pas du tout cet énorme gorille, quoi. Donc ça montre aussi en termes d'attention sélective ce que ça peut donner.
Oui, et d'ailleurs, j'ai fait dans mon livre, là, j'ai fait une page justement, même pour les adultes qui vont le lire, avec des petites expériences comme ça à faire, parce que même pour les adultes, en fait, et même nous, les professionnels, on a beau avoir une formation théorique et pratique, parce que bien sûr, avec la clinique, on le pratique tous les jours, donc du coup, on arrive de mieux en mieux à communiquer avec ces enfants, à rentrer dans leur bulle et à les aider, mais on ne vivra jamais et on ne comprendra jamais leurs troubles aussi bien que des personnes qui ont ce trouble. Et d'ailleurs, je trouve ça bien parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes, des adultes qui ont des troubles du spectre autistique et qui, en étant aidés un petit peu ou pas d'ailleurs, ils ont réussi à écrire des ouvrages. Et je trouve ça chouette parce que ça permet vraiment d'essayer de comprendre au plus proche ce qu'ils vivent. Et donc, j'ai essayé de mettre des expériences comme ça. J'en parle pour les enfants, là, dans le podcast, mais même pour les adultes, c'est intéressant quand on sent qu'en tant qu'enseignant, là, non, on n'arrive pas à comprendre pourquoi tel enfant, il est irrité. Bah, voilà, on va peut-être essayer de vivre une expérience sensorielle pour mieux comprendre. Parce que quand on vit la chose, même si ça ne sera jamais au même titre qu'un enfant autiste, on pourra un peu mieux comprendre quand même.
Je suis entièrement d'accord. C'est vraiment en vivant les choses qu'on les mesure pleinement. En tout cas, merci Charlotte. Du coup, je rappelle tes deux ouvrages qui sont parus chez Erol. Donc, on a 50 clés pour aider un enfant autiste. Et le deuxième livre, 50 clés pour aider un enfant TDAH. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter pour les personnes qui nous écoutent ? Soit développer une notion dont on a parlé aujourd'hui, soit ajouter quelque chose dont on n'a pas parlé.
Moi, je dirais surtout... en tout cas, j'aimerais finir ce podcast avec le message qui me tient le plus à cœur. Et on a commencé par ça, et c'est ce pourquoi j'ai écrit des livres, parce que je reste une... Alors, j'ai fait une formation sur l'autisme, dans le cadre notamment de mon travail au CAMS quand je travaillais à Paris. Et donc, c'est pour ça que je connais... très bien ce trouble, et je connais aussi très bien le TDAH parce que c'est des enfants que je reçois aussi depuis des années au quotidien, que ça soit à l'hôpital ou en libéral. Mais après, je reste une jeune professionnelle, et donc c'est vrai que je me suis posé la question avant d'écrire ces ouvrages: est-ce que je suis légitime, est-ce que une professionnelle qui aurait 50 ans de carrière derrière, elle serait pas plus légitime? Et en fait non, parce que finalement je me suis sentie assez légitime parce que j'avais envie de transmettre un seul message, et c'est ce qui a compté dans ces ouvrages, c'est de transmettre le message que voilà, les parents ne sont pas seuls, on est là. Là, je vous donne voilà un livre à la maison avec des outils concrets, et après, bon, moi, mes patients, ils savent qu'ils peuvent voilà m'appeler, m'envoyer un message ou me poser une question la semaine suivante. Et j'espère que les parents, enfin en tout cas, j'aimerais que les parents puissent se sentir soutenus par les différents professionnels les entourant. Et il y a des parents qui m'ont dit qu'ils étaient très seuls, en fait, même pendant toute la phase de confinement, pendant le Covid, etc. Ils se sont sentis très seuls, ça a été très compliqué pour eux. Et ils me disaient, j'avais pas d'outils, en fait, à la maison. J'avais quelques conseils, mais les conseils, ils m'ont été donnés, puis je m'en souvenais plus, j'arrivais plus à les remettre en place. Et donc, c'est pour ça que j'ai écrit ces livres-là, pour que là, les conseils, ils soient écrits, qu'ils les aient tout le temps avec eux, et qu'en plus, un enfant, il évolue. Donc peut-être que là, à tel jour, il y a une difficulté, mais que dans 2 mois, il n'y aura plus cette difficulté et que l'enfant il pourra faire d'autres choses. Donc c'est ce que j'aime avec ce format de 50 clés, c'est que oui, les 50 clés ne vont pas servir encore une fois de suite pour toutes les familles, pour tous les enfants, mais les parents vont pouvoir piocher et s'appuyer sur certaines clés. Et donc vraiment, voilà, j'ai envie de finir par ce message que les parents, il ne faut pas qu'ils soient seuls. Et d'ailleurs, dans le diagnostic, il y a beaucoup de professeurs et de pédiatres qui diagnostiquent les autismes, qui disent que le premier grand signe d'alerte pour un enfant autiste, c'est l'inquiétude des parents. Il ne faut pas que ça soit mis de côté ou dire « Oh, mais tel parent s'inquiète pour rien » ou autre. Non, si un parent s'inquiète, c'est important de le prendre en compte, de l'écouter. Peut-être que finalement, on n'aura que à le rassurer parce que tout va bien. Mais en tout cas, si un parent a une inquiétude, cette inquiétude, elle se base sur quelque chose. Et voilà, les parents, en tout cas, ils ont toute leur place et ils doivent prendre cette place dans l'accompagnement de leurs enfants. Et il ne faut pas qu'ils hésitent à poser n'importe quelle question aux professionnels, parce qu'il n'y a pas une question bête ou il n'y a pas... Parfois, j'ai des parents qui viennent et qui sont épuisés, qui vont se mettre à pleurer et ils s'en excusent. Et je leur dis, mais... ne vous excusez pas, c'est sûr, c'est compliqué le quotidien à la maison, et il faut que chaque parent se sente libre devant le professionnel de pouvoir pleurer, de pouvoir poser des questions, de pouvoir se confier. Et voilà, et pour accompagner un enfant, on doit prendre en compte ses parents ou son entourage.
Ben merci Charlotte pour cette belle conclusion et tous les éléments que tu as apportés pour nous permettre de mieux comprendre justement ce qu'est un TSA et ce qu'on peut mettre en place, que ce soit à l'école, à la maison, pour soutenir les enfants, les parents, les familles et puis toutes les personnes qui accompagnent. Merci beaucoup.
Mais merci à vous. Merci à toutes les deux de m'avoir reçue et de m'avoir permis de parler de mon livre, mais surtout de cet accompagnement quoi, pour les enfants qui ont un trouble du spectre autistique. Et c'est chouette d'avoir aussi ce format de podcast où les parents puissent écouter Et je pense que ça fait toujours du bien, en fait, pour les parents d'écouter des conseils aussi, parce que ça enlève un petit poids, parce qu'on se sent moins seul. Voilà. Même si on ne peut pas appliquer les conseils tout de suite, ce n'est pas grave. Vous les appliquerez dans quelques mois, mais déjà, voilà, sachez que vous êtes entendus et vous êtes soutenus. Quoi.
Merci, Charlotte.
Un grand merci à Charlotte d'avoir pris le temps de nous expliquer ce qu'est le trouble du spectre autistique. Ces explications nous permettent de mieux comprendre ce qu'est ce trouble neurodéveloppemental, comment accompagner les enfants, comment gérer des situations qui peuvent être compliquées. Et surtout, elle remet au centre les parents, leurs compétences et le travail incroyable qu'ils font au quotidien pour accompagner leurs enfants dans leur développement. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Si vous avez d'autres questions, posez-les en commentaire et on y répondra avec plaisir. En tout cas, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt !